Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité travaille à la communication de la plateforme automobile, l'organisme qui fédère toute l'industrie auto française. Il est bien évidemment passionné par ce sujet, incroyablement complexe car toujours en mouvement, au propre comme au figuré. Il vénère également la riche histoire de l'automobile et son rôle dans nos sociétés. Mais mon invité est aussi un passionné de mobilité sous toutes ses formes. Avec lui, nous allons évoquer les profondes mutations qui touchent le secteur automobile et comment elles se traduisent pour le Kidam. Mais nous allons également un peu parler d'aviation, je sais, je suis incorrigible, une autre passion de mon invité. L'épisode 60 d'Histoire d'Auto, c'est avec François Roudier. Salut François.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Merci de m'accueillir dans tes très beaux locaux. Hein. J'ai la vue sur la place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe sous un beau soleil. C'est un vraiment bel endroit. Hein. Merci. Mais
nos ancêtres avaient fait un investissement très intelligent dans les années 30. C'est-à-dire ouais. Après 29, tout le monde était en faillite. Ils avaient encore de l'argent. Ils ont acheté ce bâtiment autour de l'Arc de Triomphe qui a quand même maintenant un certain prix.
Oh, tu m'étonnes. C'était une bonne opération, ça. Bon alors François, on va revenir sur ton parcours évidemment, et je vais te poser une question qui revient régulièrement dans ce podcast. Quel est ton premier souvenir d'auto?
Ah, mon premier souvenir d'auto, je pense que c'est une DS, une DS marron qu'avaient mes parents, hein, et c'est parce que je me souviens de cette DS marron, la couleur horrible de l'époque, mais qui marquait. Qui apparaissait gigantesque pour moi, et j'étais à l'arrière de la voiture avec le chien qui prenait toute la place, cette brave bête qui prenait toute la place. Alors je hurlais « Maman, elle me pousse !» Et je traversais la France entière pendant très très longtemps avec ma mère, parce que mon père était capitaine au long cours. Ouais. Hein, il est à la retraite maintenant, ma mère est décédée, mais on traversait la France entière parce qu'on allait chercher mon père dans différents ports. J'habite dans le centre de la France, ouais. À côté de Montluçon, une petite ville qui s'appelle Commentry, et donc on partait au Havre, on partait à Bordeaux, au Verdon, on partait à Marseille, et donc j'ai visité la France à l'arrière des DS, puis des 504.
Est-ce que tu as verdi à l'arrière d'une DS?
Alors, moi, c'est ahurissant, mais moi, je n'étais pas malade dans les
parce
DS.
Entre l'odeur du chien et, alors, et les chaos de la suspension...
Tu peux même aller plus loin, c'est que tu avais l'odeur du chien, et puis lorsque tu prenais la direction du Havre, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, oui. Donc tu passais par Elbeuf, et tu avais tous les Saint-Pierre-les-Elbeuf, les Elbeuf, et là, tu avais des vieux camions, des vieux berliers qui crachaient à peu près la moitié de leur pétrole imbrûlé. Et moi, je trouvais ça très bon, cette odeur, et j'étais absolument pas malade.
Alors, est-ce que la flamme de la passion pour l'auto, elle s'est allumée à ce moment-là?
Je pense que j'ai toujours aimé l'automobile parce que j'ai toujours vécu dans un monde où il y avait l'auto. Les moyens de transport. Moi, j'ai toujours bougé, j'ai toujours vu les gens bouger autour de chez moi. Alors, j'ai un grand-père que j'ai pas connu, qui est mort avant que je naisse, mais qui, lui, il était au-delà de l'automobile. C'est-à-dire qu'il était à la fois testeur, il testait des Mercedes, des pneus chez Michelin, il les vendait des voitures, il vendait même des Hispano Suiza. Wow. Et il était intermédiaire, et donc il partait avec son acheteur du centre de la France jusque dans l'ouest de Paris, où était l'usine, à Bois-Colombes. Ouais. Et là, il prenait la voiture et il faisait passer le permis de conduire à l'acheteur, parce qu'il n'avait pas le permis de conduire. Donc, en revenant, voilà, comme ça. Et puis, il avait des choses assez extraordinaires. C'était un bricoleur, il réparait lui-même ses voitures. Il avait un Chenard et Walker nez de cochon. Et quand il a eu cette camionnette qui était assez moderne pour l'époque, il a dit à ses employés, il était poissonnier, il a dit aux employés, écoutez, venez avec moi, vous dites à la famille que vous serez pas là, on descend dans le sud de la France pour tester le camion. Et il a emmené tout le monde, et effectivement, il y a eu une grosse panne, un truc a cassé, je crois que c'est le cardan ou autre, et bien sûr, il n'y avait pas de pièces de rechange, et là, il a dit au garagiste, écoute, tu me laisses ton atelier, j'en refais un la nuit. Il a refait son cardan et il est reparti. Donc j'ai toujours entendu ces histoires. Et puis après, bah, j'étais dans un monde où, alors c'est du côté de mon père ça, mais du côté de ma mère, qui était un peu plus bourgeois, ils ont toujours eu des voitures. Donc j'ai toujours été habitué à voir des gens avec des voitures. Et pour moi, c'était normal d'aller voir ma tante qui avait son petit cabriolet Berton, d'aller voir mon oncle qui lui avait ses Alfa, qu'il en cassait quelques-unes, et ses Simca 1000. Donc j'ai toujours grandi avec l'automobile.
Mais alors j'ai découvert avec surprise que tu as fait des études d'histoire.
Ben oui, personne n'est parfait et effectivement j'ai fait de l'histoire. Après avoir commencé Sciences Po, je suis rentré à Sciences Po Paris, puis finalement ça m'a pas plu du tout. Donc je suis parti et je suis repassé en histoire pure et j'ai évolué vers l'histoire contemporaine parce que j'ai toujours été un passionné d'histoire militaire.
Ouais.
Et donc dans l'histoire militaire, il y avait une branche qui s'était créée à Paris 1 avec une chaire sur l'histoire de l'aéronautique et de l'espace. Alors que j'ai toujours aimé l'aviation et l'espace, et donc j'ai fait mon DEA sur ce sujet. J'ai eu la chance à l'époque, comme j'étais historien, de défendre courageusement la France pendant mon service militaire au ministère des Anciens Combattants, en civil. Ouais. Alors quand je disais à mes copains qui crapahutaient dans les pays de l'Est en uniforme, je leur dis, vous savez, moi, je suis pas protégé par les conventions de Genève. Hein. Bon, j'avais des horaires de fonctionnaire, ce qui était assez agréable, rue de Bellechasse, c'était super. Et puis, 15 jours après, j'ai mon prof d'histoire qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y a la SNECMA, donc à l'époque c'était SNECMA et non pas Safran, qui a un problème. Ils ont besoin d'un attaché de presse, quelqu'un qui sache parler anglais, parce qu'il y a un énorme problème. Il y a eu un accident avec un CFM56, donc les moteurs du Boeing 737 à l'époque.
737, ouais.
Le 737 s'est écrasé sur la M1 en Angleterre. Les journalistes anglais appellent et l'attaché de presse qui est là, il ne sait pas parler anglais.
Incroyable.
Voilà. Donc voilà comment je suis entré dans l'industrie. Bon, je voulais effectivement ne pas devenir prof, mais plutôt intégrer l'industrie, peut-être. J'ai un de mes meilleurs copains qui s'occupe de tout ce qui est histoire chez Dassault, qui lui a fait la même formation que moi. J'aurais pu faire ça. Et donc, je me suis retrouvé après à monter dans ce qui est devenu le groupe Safran, jusqu'à la direction de la communication, de la première filiale franco-anglo-canadienne de Safran, qui faisait les trains d'atterrissage.
Oui. Messier Doughty
à l'époque,
qui était qui avait du sang de Bugatti dans les veines.
Exactement, tout à fait, qui avait du Bugatti. En fait, c'était une des parties. J'avais Oloron. En fait, c'est bien parce qu'il y avait deux usines. C'était tous les deux des grands joueurs de rugby. Il y avait Oloron, Sainte-Marie, et puis de l'autre côté, alors on dit pas Gloucester, là-bas on dit Gloucester. Gloucester. Voilà.
Alors, t'as passé quand même 18 ans dans cet univers aéronautique. Tu as même été directeur adjoint du Salon du Bourget.
Oui, ça a été en fait quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'à l'époque, mon président, Louis Leportz, donc, qui était président de Messier Doughty, était aussi commissaire général du Salon du Bourget. Et on était post-2003, c'est-à-dire la crise avec les Américains.
Au creux de la vague.
Et ça se passait très mal. Mm-hmm. Et Louis me demande, François, est-ce que vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe, apparemment. Donc j'ai fait une mission en plus de mon boulot de DIRCOM, en allant voir un peu ce qui se passait. Alors, comme j'avais l'habitude des Américains, parce qu'à l'époque, c'était l'époque où je passais quasiment tous les 15 jours à Washington, parce qu'on était sur les premières tentatives des Français à placer des trains d'atterrissage chez Boeing. Et donc, ce qui a été gagné d'ailleurs sur le 777. Et c'était très intéressant parce que on avait en fait des Américains. Certes, qu'il y avait eu ce problème diplomatique, mais en fait, quand on grattait, c'était un vrai problème commercial. Ils étaient traités comme des chiens. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit à mon président, le problème maintenant, c'est que pour résoudre ça, je peux pas être des deux côtés de la barrière. Je peux pas être à la fois client, Messier Doughty du groupe Safran, et puis le vendeur. Et j'aimerais bien passer de l'autre côté de la barrière pour voir un peu comment ça se passe dans les salons. Et par rapport à d'autres collègues qui étaient dans la communication, je crois que je suis un des rares à avoir fait ce passage-là. Quand on est de l'autre côté de la barrière, le monde est très différent du monde policé de l'industrie.
Alors, quel souvenir tu gardes de ces 18 ans passés dans le monde de l'aéronautique ?
Des souvenirs extraordinaires. C'est ce qui m'a permis, jeune, de voyager. de faire des trucs extraordinaires avec des Chinois, des Américains, d'être bah, un peu partout, d'être avec des Anglais, d'avoir rencontré Sir George Doty, qui était quand même quelque chose, d'avoir serré la main d'astronautes célèbres, enfin, c'est d'avoir fait des dîners en smoking au musée aérospatial de Washington.
Ah, ouais.
D'avoir appris à travailler avec des Chinois. Alors, c'était très drôle, parce qu'on avait lancé une filiale à Singapour avec des Chinois. Et pendant 6 mois, j'avais tous les Chinois qui me disaient « Ah, monsieur Taoti, monsieur Taoti. » Au bout de 6 mois, ils m'ont avoué que, en fait, ça voulait dire, mais en chinois, « accident, crash ». Voilà, donc il a fallu trouver un autre mot. Mais, donc, j'ai compris que... Pour un Asiatique, dire non, c'est une insulte.
Oui.
Donc,
oui,
il faut savoir poser des questions. Et après, on a eu des moments extraordinaires avec eux. Donc, non, beaucoup de voyages. Et puis, ce développement de l'aviation commerciale, le développement du Rafale aussi.
Ouais,
hein.
Ouais,
je me souviens des premiers essais avec les M88 à l'époque, ouais, les tirés 2.
Les moteurs
du Rafale. Donc tout ça, c'était très intéressant. Le problème, après, quand je suis passé au Salon du Bourget, bon, ben, c'est que la première année, c'est génial, parce que tu vas résoudre tous les problèmes. Je me souviens avoir fait des conférences à tous les gens qui venaient exposer au salon, dans les locaux de Lockheed Martin, au board. Enfin, c'était extraordinaire à Washington. Ben, si t'es bon, tu vas résoudre tous ces problèmes.
Ouais, ouais.
Donc, au bout du deuxième salon, à la fin du salon 2007, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là, dans 2 ans? Les problèmes que j'avais à résoudre, c'était la boue dans les parkings, les gars de la sécurité qui n'arrivaient pas, les pseudo vendeurs qui essayaient d'arnaquer les gens. Donc je me suis dit, c'est quand même pas terrible, quoi. Et puis bah là, en 2007, j'ai été démarché pour faire un job de directeur de la communication des constructeurs automobiles français.
Donc on y arrive, 2007-2008. Donc depuis toute cette période, tu es resté dans ce qu'on appelle le comité des constructeurs français d'automobiles, qui fait maintenant partie de la plateforme automobile.
Qui a été renforcée, la plateforme de l'automobile, dont j'ai vu la création. Moi, je dis, je suis un canal historique dans la PFA, je suis un des premiers employés, parce qu'en plus, on a été un petit peu payé à l'époque par l'argent de la PFA. Et donc, à l'époque, c'était mon patron actuel qui l'avait lancé, parce qu'il était ministre, c'était Luc Châtel. Donc, on retrouve des gens, il y avait Claude Cham la FIEB. Donc on voit que tout ça, c'est loin, mais finalement assez proche.
Ouais, ouais. Voilà. Alors depuis ton arrivée, tu as déjà vécu, alors je me suis amusé à compter, une crise financière, le Dieselgate, une pandémie mondiale, et c'est pas fini, puisque aujourd'hui l'industrie automobile est obligée de faire une révolution électrique à marche forcée. Comment est-ce que toi qui maintenant vis dans cet univers depuis longtemps, comment tu juges, toi, la capacité d'adaptation de la filière automobile?
Mais ça, c'est une excellente question, parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper actuellement en étant trop proche de l'actualité et en se disant ouais, c'est horrible tout ce qui arrive dans l'automobile, tout s'effondre, tout est changé, c'est jamais arrivé. Non, il faut prendre un peu de recul. Et je crois que justement, la spécificité de cette industrie automobile, et même du commerce automobile, mettons du secteur automobile, au-delà de la notion de filière, c'est la capacité de gérer les imprévus, les changements délirants, des changements qui, du jour au lendemain, mettent des années de travaux, d'intelligence complètement à la poubelle, et puis, quelque part, d'être vachement résilient. Parce que on parle, par exemple, je prends un exemple, on parle d'Elon Musk. Elon Musk arrive avec sa voiture et il bouleverse tout. Il devient l'une des voitures les plus vendues au monde. Tout le monde disait « ça marchera jamais ». Il construit ses voitures différemment. Il prend des parts de marché énormes. Et il a une publicité bien à lui, complètement nouvelle par rapport à ce qu'on fait. Est-ce qu'on a connu ça? Bah oui. En 1919, il y a un perturbateur qui arrive en France. Ouais. Il s'appelle André Citroën. Il vient emmerder tout le monde. Personne ne prend au sérieux. Il met son nom sur la Tour Eiffel. Et quelques années plus tard, il a plus de la moitié du marché français. Donc, et ça, on le retrouve partout. On le retrouve partout. On a des gens comme Lee Iacocca qui ont évité des ruptures dans l'automobile. Donc, on a quelque part une résilience de la rupture dans l'industrie automobile. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, parce que on voit quand même que les grandes automobiles ont les capacités, réussissent à tenir. Quand on voit des marques et des noms comme Renault, comme Ford, qui ont résisté depuis la crise de 1929. Ouais. Et encore, même, j'irais même plus loin, c'est que Renault a résisté à la crise des années 1910. Ouais. Donc là, on va vraiment, là, on est dans l'archéologie, on est dans la paléontologie automobile.
Là, c'est l'historien qui parle.
Voilà. Mais c'est fascinant, parce qu'on voit qu'il y a une résilience dans certaines sociétés qui est phénoménale, avec quelque part quelque chose qui est un petit peu différent de l'aéronautique, où c'est peut-être lié à la longue durée des programmes, c'est que là, des fois, on a ce que j'appelle un peu le Las Vegas automobile. C'est-à-dire que vous faites tapis, vous vous mettez sur un programme, si ça plante, la boîte est foutue, si ça marche, ça sauve. Mmh. Et les miracles 205 de Peugeot, ouais, bah, y en a pas mal dans l'automobile quand on regarde. Il y a pas mal de voitures qui ont sauvé une entreprise. Donc, c'est ce que je trouve qui est vraiment très intéressant. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça s'adapte. On aurait peut-être fait ce podcast il y a 10 ans. Une des questions aurait été de dire, mais est-ce que les constructeurs automobiles vont être absorbés par les GAFAM ? Ouais. Non. Maintenant, on voit que les GAFAM deviennent le troisième acteur de l'automobile, à côté du constructeur, du fournisseur. Et on a ces GAFAM qui prennent un poids énorme. Et bah, les grands constructeurs automobiles sont toujours là. Alors, il y a des nouveaux, certes. On a nos amis chinois qui arrivent. Mais on retrouve certaines marques qui sont là. Donc, c'est vraiment cette notion de résilience, hein, résilience dans la disruption, pour faire moderne.
Alors, justement, t'en parlais, il y a un nouveau venu, vaguement connu, qui disrupte la filière. C'est Elon Musk et Tesla. Quel regard tu portes sur ce nouvel acteur ?
Ben, au départ, je ne comprenais pas bien. Je dois dire que je ne comprenais pas bien. D'abord, le type arrive, ce n'est pas lui qui a inventé la voiture. Par rapport au premier projet des constructeurs, ce n'est pas vraiment la même chose. Et puis, progressivement, on voit quand même qu'au-delà du constructeur automobile, c'est un homme d'affaires très puissant. Et moi, j'ai compris que Tesla, de toute façon, s'en sortirait lorsqu'on a vu son implication dans le programme spatial américain. Les Américains savent ce que c'est qu'une industrie stratégique, et actuellement le programme spatial américain repose sur Elon Musk. Donc il est hors de question d'imaginer que l'État américain laissera tomber Elon Musk. Oui. Voilà, parce que c'est l'avenir des États-Unis.
C'est leur porte d'entrée à la station spatiale.
C'est la porte d'entrée à l'espace, au-delà. Ouais. Parce qu'eux commencent Star Trek, c'était un petit peu de la science-fiction peut-être, mais pas pour eux. Ils ont des vues qui sont, à mon avis, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et derrière ça, et ben on a retrouvé, avec ce Elon Musk, des façons de faire de tous ces gens qui adorent changer le monde automobile. D'abord, il a attaqué la voiture électrique dans le sens contraire. Tout le monde disait, on va faire des petites voitures électriques parce que voilà, il fallait faire des Ligier électriques quasiment. Ouais. Non, lui, il a fait un truc pour aller concurrencer les Audi. Et il a rendu les voitures intéressantes pour ceux qui cherchaient à se mettre en avant. Mmh. Donc il a réussi sur un plan technique, avec des avancées techniques assez intéressantes dans sa voiture, ne serait-ce que sa conception autour d'un logiciel. Mmh. Bah, son châssis est quand même assez remarquable. Et alors plus résilient que les problèmes de châssis dans l'automobile, on ne trouve pas. Bah, lui, il a fait un bon truc. Donc on voit quand même que même en modernisant, il s'est débrouillé là-dessus. Sa façon de vendre est très spéciale, sa façon de faire la publicité idem. Donc on voit que il a une façon de faire qui finalement colle assez au monde automobile. C'est pas un ovni, c'est pas un tucker. Je crois que c'était un peu le risque, se dire bah finalement c'est un tucker, il va durer ce qu'aura duré tucker, il va faire quelques bagnoles et puis tout ça va s'effondrer. Non, il se débrouille très bien et donc c'est devenu un acteur majeur. Alors il a fait en plus quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'il a réinventé Henry Ford. Parce que qu'est-ce qu'il fait comme modèle ? Il a deux modèles. Ouais. Il a deux modèles. Ben voilà. Donc comme Ford avait sa A et sa T, et puis voilà, c'est terminé. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui est... bon, travailler avec lui doit être un cauchemar, je pense.
Oui.
Il a ce côté un peu dingue de ces gens qui pensent uniquement au produit et à ce qu'ils doivent et à ce qu'ils doivent faire pour le produit. Mais quelque part, moi, il me fait penser à Marcel Dassault. Marcel Dassault, dont toute sa vie était réglée pour faire ce qu'il voulait faire, ses avions. Voilà. Et Elon Musk, on sent bien que c'est ça. Il veut faire ses projets. Peut-être qu'un jour, l'auto l'intéressera moins, mais il va rester sur l'espace ou il va trouver autre chose. Mais on voit que qu'il est focalisé sur ça. Et il met tous les moyens qu'il peut.
Alors on sent que tous les constructeurs veulent plus ou moins imiter Tesla, que ce soit en termes d'expérience utilisateur ou de processus de fabrication. Et là, je pense notamment au fameux gigacasting, ces pièces de fonderie XXL que Volvo ou Mercedes veulent aussi adapter de leur côté. Alors est-ce qu'ils ont raison de entre guillemets, copier le modèle Tesla ?
Bon, alors là, c'est encore un point qu'on a dans l'histoire automobile, hein, c'est qu'au début, on critique, ouais, c'est nul, ça marchera jamais, puis après ça, on se dépêche d'acheter la voiture, de la démonter et d'espionner, hein.
Ouais.
Mais ça, c'est un peu le cas de figure qu'on trouve partout. Alors, oui et non, parce que je pense que, il faut faire attention. Pour l'instant, Musk est sur un type de voiture extrêmement, ciblé. C'est pas forcément ce qui peut s'appliquer aux voitures de segment inférieur. Hein, le génie de Musk a été de démonter complètement les théories des sociologues qu'on connaissait, qui vous expliquaient il y a 10 ans que la voiture n'était plus un statut social. Non, lui, il en a fait un super statut social. Et c'est la raison d'achat à 99% des gens qui achètent une Tesla. Donc, il est vraiment sur un segment très spécifique, et il a créé son segment d'ailleurs, hein, alors ce qui bien sûr va taper sur Audi et sur certains autres modèles, mais l'acheteur de Scénic, c'est pas un acheteur de Tesla, il faut bien être, pour bien savoir où on va. Donc oui, il y a une copie, est-ce que tout le monde va faire du Elon Musk, c'est pas dit, reprendre des bonnes idées sûrement. Hein, les années à venir pour Tesla commencent à être un petit peu différentes dans le marketing. Dans quelque chose qui arrive toujours dans l'automobile, bah, c'est l'occasion. Et il faut faire des occasions. Les voitures vieillissent, comment on fait ? Est-ce qu'elles sont réparables ? Il y a quand même pas mal de questionnements sur la réparabilité des Tesla. Et comme tout le monde, ils se retrouvent avec des problèmes de base, de freinage, de pont. Les ponts, voilà, donc on est toujours sur ces points-là. Donc en fait, je pense que oui, il a donné une certaine impulsion, il y aura des choses qui vont être faites, mais pas forcément tout. Hein, on a un bon exemple, on voit que l'évolution de Dacia, hein, lorsque Dacia a démarré, c'était pas la recherche de ce qu'il y avait de plus ultime, au contraire, c'est la recherche d'économie. Mm-hmm. Maintenant, ils sont plus sur l'augmentation de la visibilité de la marque. Donc, je pense que c'est pas le seul chemin, Tesla.
Alors justement, tu commençais un peu à l'aborder. L'autre tendance lourde du moment, c'est le renchérissement des voitures. Justement, il y a le cabinet, vos voisins de Troasa Data qui sont basés ici aussi, ont fait une étude comme quoi les voitures vendues au mois d'août étaient en moyenne à 35 118 euros, prix neuf, hors option, hors négociation. Grosso modo, c'est 10 000 euros de plus qu'avant la pandémie, hein, dans ces eaux-là.
Oui.
Est-ce que les constructeurs sont pas en train de se couper d'une partie du marché ? On rappelle que le marché français s'est contracté d'un quart en gros depuis la pandémie. Est-ce qu'il y a des gens qu'on verra plus jamais en concession ?
Bah, c'est un véritable problème, ça. C'est un véritable problème et ça va être, je pense, la question pour les années à venir. Pour de nombreuses raisons, hein. Alors effectivement, les constructeurs préfèrent vendre des voitures où il y a un peu plus de marge. Mmh. Effectivement, les voitures se sont alourdies dans le thermique avec tout ce qui était équipement de sécurité. Elles vont encore plus s'alourdir dans l'électrique parce que la batterie a du poids. Et le poids, ça coûte cher. Voilà, la voiture, c'est comme un steak, ça se paye au poids. Hein, faut jamais l'oublier. Hein. Et là, on a un vrai problème parce que on était dans un monde où la classe moyenne pouvait acquérir une voiture neuve. Hein, ça a été les 30 Glorieuses, c'était les achats de 4 chevaux. En Chine, ça a été l'essor de la classe moyenne. C'est fait aussi en achetant des voitures neuves. Et aux États-Unis, no comment, hein, puisque c'était dans les années 40, plus ancien, c'est avec la Ford T que ça a commencé, puis après dans les années 40, puis le miracle des années 50 là-bas. Donc tout ça faisait que le volume d'achat de la classe moyenne faisait la rentabilité de l'industrie automobile. Après, il y avait toujours eu des marchés de niche sur le luxe. les Allemands ont dessiné la voiture depuis les années 80, et c'était un marché plutôt sur le haut de gamme. Enfin, ça n'empêchait pas qu'il y ait des polos, donc on avait un peu tout. Là, on est sur une vision assez sinistre pour la classe moyenne, parce qu'on est en train de dire aux gens, ben, quelle que soit votre réussite, votre travail, vous ne pourrez jamais vous payer une voiture neuve. Donc vous serez condamné à l'occasion. Alors en plus, maintenant, ils sont en train de réaliser qu'ils pourront même plus se payer un logement neuf. Voilà. Donc c'est assez dangereux sur un plan politique et social. Ouais. Bon, ça dépasse nous, les pauvres constructeurs et industriels. Hein. C'est pas notre métier, mais c'est sûrement un perturbateur dans le système social européen, je dirais, hein, au-delà, parce que les Italiens ont le même problème, les Allemands aussi, même en Angleterre. Hein. Donc on est sur un moment où peut-être que l'achat de voitures va disparaître encore plus vite que ce qu'on pouvait imaginer pour être remplacé par la location. Mmh. Hein, parce que la location,
c'est déjà une vente,
ça va très très vite, hein. Voilà, ça va très très vite. Bon, c'est sur le professionnel, c'est quasiment 100%.
Ouais, ouais.
Voilà, et on peut se dire que peut-être que justement, ça va précipiter cette façon de mobilité. Hein. Donc, les constructeurs seront aussi propriétaires de leur voiture, in fine. Ou les sociétés qui achètent ces voitures.
C'est paradoxal parce que c'est aussi la location, c'est aussi la voiture jetable. On la garde 36 mois, 48 mois, puis après on en change.
Voilà.
Qu'avant on achetait une voiture pour la garder jusqu'à la casse.
Voilà. On a changé complètement la façon de voir, mais là aussi c'est intéressant sur un point sociologique, c'est que quand on parlait de ça il y a 10 ans, on avait l'impression que tout le monde louerait de la mobilité, des voitures grises, moches, des Trabantes, quoi, quasiment.
Hein, les Autolib.
Voilà, les Autolib, voilà, les Autolib, exactement. Voilà, voilà. Les Trabantes, l'analogie est pas mal. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que plus les formules locatives se développaient, plus la personnalisation des véhicules augmentait. Avec toutes ces voitures, je ne citerai pas de marque, mais les rétro blancs alors que le reste est rouge, des logos, des machins. Donc, on se fait plaisir, comme avec un téléphone portable, on se fait plaisir, on surconsomme, on prend toutes les options. Regardez, même sur des voitures dites low cost, les Duster, le Duster premier prix, ils en ont vendu quasiment aucun, parce que tout le monde se gave d'options.
La Sandero se vend en version Stepway.
Idem, voilà. Donc, on consomme beaucoup plus l'automobile en la louant. Donc, c'est assez paradoxal. Voilà.
Et alors, c'est quoi la solution ? Aujourd'hui, on ne sait plus faire de petites voitures pas chères, c'est fini ?
Bah oui, déjà la disparition du thermique va poser un problème, parce qu'on avait des moteurs thermiques de petites voitures qui étaient assez rentabilisés,
éprouvés.
D'abord, ces voitures sont parties dans des pays à taux de main-d'œuvre inférieur à la France.
Les pays d'Europe de l'Est.
Et même en Allemagne. En Turquie, l'Allemagne a perdu, quand on voit la baisse de la production en Allemagne, c'est assez important, parce que tout ça est parti dans des pays qu'on ne peut pas le regretter en tant que citoyen européen, parce que si on a sorti la République tchèque, la Pologne, de toutes ces années de communisme, c'est grâce à l'automobile. Hein. Les Tchèques adorent l'auto et ils le disent toujours. Hein. C'est ce qui leur a permis de revenir dans le monde réel. Et le problème actuellement, c'est de se dire, oui, mais ces petites voitures, même électriques, elles coûtent cher. Elles coûtent trop cher. Donc, il y a pas mal d'idées. Bon, on a vu la Spring qui est arrivée chez Dacia. On va voir ce que va donner la nouvelle Citroën
C3
électrique. Ça peut être un changement. Ça peut être un changement.
On sait que le bonus écologique va bientôt être réformé. En particulier, les modèles made in China n'y auront plus droit. Est-ce qu'on prend pas le risque de rendre justement la voiture électrique encore plus inabordable ? Déjà qu'on a du mal à la démocratiser.
Alors, je pense qu'au moins en France, on aura un bon exemple pour ne pas faire de bêtises, c'est l'Allemagne. Parce qu'on voit très bien ce qui s'est passé en Allemagne, le bonus s'arrête en fin septembre, il y a eu des surcommandes de voitures électriques, et ça risque de plonger sérieusement. Ouais. Donc, on a encore besoin de créer ce marché de l'électrique. Alors certes, on peut être super heureux de voir que c'est à 15%, mais c'est 15% du marché, dans le parc, c'est 1,5% l'électrique.
Oui, hein.
Donc ça veut dire rien. Et il n'y a pas encore le marché de l'occasion. Enfin, si, le marché de l'occasion, il s'appelle Zoé, hein, en
oui,
électrique.
Hein. Oui,
voilà,
oui.
Donc on n'a pas encore, là, je dirais, un vrai marché automobile avec le neuf et l'occasion. Donc il y a encore besoin d'incitation. Je pense que le gouvernement l'a compris en France et continuera d'avoir des bonus suffisants pour les voitures électriques. Après, l'idée de vouloir être sûr que l'argent de l'impôt va bien à des sociétés françaises, bon, c'est une grande discussion politique.
Oui.
Qui s'est élargi d'ailleurs donc hier en septembre à l'Union européenne avec une étude pour voir s'il n'y a pas du dumping de la part des voitures chinoises.
D'ailleurs, j'ai vu que ce matin que la Chine avait protesté officiellement.
Voilà, alors la Chine a protesté, mais alors quand on regarde qui a protesté, bon d'abord ils ont protesté au milieu de la journée parce que chez eux c'était le milieu de la journée quand on se levait ce matin et ils ont pris le ministre du commerce. Hein. C'est pas Xi Jinping
oui,
qui est le patron du Parti
front,
communiste
ouais.
qui est monté au front. Donc je dirais que tout ça en commerce, ça,
c'est
en
un commerçant, peu un jeu de
dupe. Ça sent la négociation. Quoi. Voilà. Donc on sent qu'on est entre gentlemen et que les choses peuvent s'arranger.
D'un autre côté, on sent que les constructeurs européens ont quand même du mal à rivaliser avec les nouveaux venus, que ce soit Tesla ou les Chinois, notamment en termes de prix. Je pense à Volkswagen qui voit ses ventes plonger en Chine. Je pense à Stellantis. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé la nouvelle i308. Elle est objectivement très chère pour ce qu'elle propose. Est-ce qu'ils sont en danger ?
Alors danger, ben on verra ce qui se passe. Mais je crois que chaque constructeur est à suivre vraiment en fonction de sa base commerciale, de sa base technique. Moi, je suis très surpris, ça demande d'ailleurs pas mal de boulot, hein. Moi qui n'aime pas trop travailler, c'est un peu ennuyeux, c'est qu'il vraiment il faut les suivre de près. Regarder tous les paramètres, parce que l'un peut faire croire qu'il va pas bien, mais en fait on réalise qu'il est super sécurisé sur tout ce qui est logiciel et tout ce qui est GAFAM, il a des bonnes relations, il a même il développe ses propres composants. L'autre va être super léger dans ce domaine, mais finalement va être plus sécurisé sur la chaîne de tout ce qui est électrique, batterie et le reste. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est, je crois, dans les 5 ans à venir, au bout de 5 ans, on va pouvoir se dire, oui, certains sont hyper menacés. Et ceux qui sont hyper menacés sont peut-être pas forcément ceux qui sont les plus mal portants. Hein. Il faut aussi aller voir, comme je dirais, ouvrir le capot, aller voir dans le moteur, c'est-à-dire qui possède les sociétés. Quel est l'actionnariat derrière, hein. Et ça, c'est un point en automobile qu'il faut jamais oublier. Hein, l'histoire, je l'ai toujours dit, l'histoire de l'automobile en Grande-Bretagne, c'est l'échec de l'actionnariat. Mais depuis le début, hein, depuis M. Bentley. Hein. Donc ça a toujours été un problème et il faut bien regarder ça. Donc attention aux sociétés qui ont peut-être trop
ouvert leur capital.
Ouvert leur capital à certains actionnaires qui peuvent être
volatiles.
Plutôt volatiles ou extrêmement perturbateurs. Et on verra un petit peu tout ça. Bon, ce qui semble quand même se faire, et ça se fait faire au niveau chinois, parce qu'actuellement, là, en interne, dans l'automobile chinoise, ça se passe très mal. Hein. Oui. Il y a une crise terrible.
Oui, le marché intérieur s'effondre.
Le marché intérieur s'effondre, et puis c'est des règlements de compte. Bon, il y a 50 constructeurs chinois.
Oui,
bon,
il y aura forcément des
problèmes. Voilà, exactement. Ça va se restructurer. Et il va falloir voir comment se fait la restructuration. Hein, on sent bien qu'il y a des façons de faire, qu'il y a des marchés porteurs, il y a des façons de traiter l'électrique et le thermique différentes. Hein, je pense au groupe Renault qui le gère différemment pour que ce soit plus efficace des deux côtés, avec des partenaires, donc des blocs constructeurs, GAFAM, fournisseurs qui risquent d'apparaître et qui sont assez différentes qu'on a pu connaître. Et même dans le Big is Beautiful, on voit que des très gros équipementiers, allemands en particulier, ont des problèmes et commencent à faire le ménage dans leur division en se disant « bon bah, telle division n'a plus d'avenir dans 10 ans, je la vends parce que je préfère investir ailleurs ». Donc il y a tout un changement.
Mais c'est Bosch qui a lâché le côté voiture
Bosch,
autonome.
Voilà, Zara, Continental, Conti est dans une réflexion extrêmement intéressante. Hein. Tous ces groupes sont à suivre et on voit que chacun a des stratégies différentes. Pour l'instant, je n'ai pas un cas cadre où tu pourrais dire, tiens, mais il y a le modèle un tel, le modèle un tel. Mais je pense que dans un an, on va réussir quand même à y voir plus clair par rapport à ça.
C'est jamais bon signe quand les équipementiers commencent à se serrer la ceinture. C'est quand même un peu le canari dans la mine, un peu, non ? C'est les premiers qui étouffent.
Oui, parce que oui et non, parce qu'en fait, on a quand même des groupes équipementiers très solides, qui ont la conception de leurs équipements et bien sûr, certaines choses sont rapatriées actuellement chez les constructeurs, mais pas tout. Quand même, hein. Pas tout. L'éclairage, par exemple, reste chez les équipementiers et on sait que c'est vraiment l'avenir. On a vraiment ça. Les ADAS, la majorité des ADAS, mais à 99%,
sont
fournis par les équipementiers. Et on voit que, par exemple, pour les nouveaux conducteurs, comme en Chine, une voiture est suréquipée en ADAS. Normal, les gars ne savent pas conduire. Ça aide aussi les pays émergents et progressivement. Nous, dans les vieux pays, on va avoir toute notre génération des boomers, des baby-boomers dont je fais partie. Lorsqu'on aura 95 ans, on voudra toujours avoir notre voiture. Donc il y aura intérêt à avoir de la DAS partout et de la connectivité.
Oui.
Donc c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis. Non, ce qui est plus compliqué actuellement, c'est que ce jeu qui existait entre constructeurs et équipementiers fournisseurs, je les mets ensemble, maintenant est un jeu à trois. Un ménage à trois avec les GAFAM qui rentrent au milieu. Et comment vont-ils se situer, ces GAFAM ? On a compris, il y a eu beaucoup de déclarations des patrons de Nvidia ou autres qui disaient, nous, on ne veut pas acheter un constructeur, on ne veut pas acheter un équipementier, on veut travailler avec. Donc tout ça va être extrêmement intéressant à suivre. C'est sûrement un peu une évolution qu'on a déjà vue dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, on voit que le poids, alors dans l'aéronautique militaire, oui, le poids de tout ce qui est soft et au-delà de ce qu'on appelait avant l'électronique, l'informatique, est crucial. Il s'est réglé par différentes façons, mais on voit qu'on a à la fois les fournisseurs de vis, d'attache, comme on dit, pour parler, qui existent toujours et qui fonctionnent très bien, les constructeurs, alors il y en a de moins en moins, mais les constructeurs sont toujours là, et on a tous ces nouveaux venus qui arrivent. Donc je pense que l'automobile va connaître un peu cette révolution.
Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Et du coup, j'annonce les invités à l'avance et vous pouvez leur poser des questions. Et là, François, j'ai une question pour toi de Jean-Louis. Quel est ton sentiment sur les nouvelles mobilités intermédiaires, les engins comme les Citroën Ami, Microlino, il m'a cité aussi la petite italienne Tazzari.
Elles existent. Le succès de l'Ami montre qu'il y avait un créneau.
Ouais.
Il y avait un créneau et ce qui est intéressant sur l'AMI, c'est cette utilisation par les parents qui achètent cela pour les enfants, pour les protéger. Donc il y a sûrement quelque chose d'intéressant dans cette vision-là. On a connu les voitures sans permis. Alors je dirais pas qui les conduit chez moi dans l'Allier. L'Allier, c'est la soupe aux choux. Donc quand on voit une voiture sans permis, on augmente sa distance de sécurité. Surtout quand je suis en moto, je fais très attention parce que
surtout
en général,
dans les vignobles du 100%.
Voilà. Donc on est à peu près sûr que quand le clignotant est mis à gauche, il va tourner à droite.
Et que la truffe est bien rouge.
Voilà, exactement. Donc on avait ça et on voit que cette petite mobilité est très pratique. Elle arrive comme une voiture supplémentaire du ménage pour les enfants, et puis elle se cale bien dans certains domaines. Elle est thermique, elle passera électrique sûrement. Ça peut trouver une place. Après, c'est un peu comme le vélo. C'est que après, moi en bon statisticien, je regarde combien de personnes ça déplace. Et là, on voit qu'on est vraiment sur des franges extrêmement faibles. C'est tout ce qu'on a aussi sur le covoiturage ou l'autopartage. Oui, ça se développe, mais par rapport
on parle de très loin.
Et par rapport au très lourd, qui est l'automobile à usage quotidien ou semi-quotidien personnel, ça reste epsilon dans le besoin de mobilité des Français.
Et la voiture autonome, c'est fini ? On a l'impression qu'il n'y a plus que Tesla qui en parle.
Ah, c'est un lourd sujet. C'est un lourd sujet parce que on a tout et son contraire. Hein, on voit des voitures qui fonctionnent. À Phoenix, ça marche. À San Francisco, ça marche, sauf quand les types mettent des bornes en plastique orange sur la voiture, elle ne sait plus où aller. Hein. Et puis, on a un peu tout et son contraire. Alors, effectivement, c'est Le rêve, c'est le Graal du niveau 5. Mmh. Donc la voiture, on rentre, et donc on a passé une bonne soirée, on a pris 4 bouteilles de champagne, on se jette dans la voiture, et elle vous ramène chez vous, tout juste si elle ne va pas vous mettre sous la douche, quoi. Bon, il faut quand même être un petit peu réaliste. Les niveaux de calcul à l'intérieur sont quand même énormes. Mmh. Hein. Et puis, après, on retombe sur ce problème d'un peu de l'intelligence artificielle. Et je me souviens de Luc Julia, donc, qui est chez Renault, qui le père de Siri, donc qui connaît quand même un petit peu l'intelligence artificielle, qui nous racontait qu'il avait une voiture à Phoenix qui s'arrêtait tout le temps, donc tout le monde klaxonnait derrière. La voiture faisait des stop and go, des stop and go, des stop and go. Et tout simplement, c'est parce que sur le bas-côté, il y avait un type qui avait débarrassé des panneaux et qui se baladait avec un panneau stop. La voiture voyait le panneau stop, elle s'arrêtait. Donc, son analyse, c'est de dire, voilà, ce qui nous, même aux plus débiles d'entre nous, aurait pris 3 secondes à comprendre, la voiture, il aurait fallu un calcul phénoménal, quantique sûrement, pour qu'elle comprenne ce qui se passait. Donc, c'est la limite de la voiture autonome. Elle n'est peut-être pas forcément dans ce que peuvent développer les ingénieurs, mais dans le coût que ça va représenter. Ouais. Alors, peut-être que ce que je dis, je vous dirai exactement le contraire si on se revoit dans 20 ans, quand je serai à la retraite, où on aura tous ces millions de baby-boomers qui resteront chez eux, parce que de toute façon, on sera trop nombreux, on ne pourra pas avoir des EHPAD dans les rues, donc partout. Donc il faudra absolument que ces gens soient mobiles. Et là, il y aura sûrement des voitures autonomes, peut-être plus des navettes, mais des niveaux d'autonomie qui seront peut-être proches du niveau 5.
C'est marrant parce que moi, c'est un secteur que je suis depuis le 2005-2006, l'époque du DARPA Grand Challenge. Ouais. Et donc, ça, c'était un défi lancé par la branche recherche de l'armée américaine à plein d'universités, dont Stanford notamment. Ouais. Et à l'époque, il y avait un Touareg autonome qui avait fait un parcours et tout. Je me souviens encore, je vois encore la photo avec le gars assis en passager et donc un système de robot qui pilotait le volant. Et je m'étais dit, waouh! Et vraiment, au début des années 2010, tout le monde disait, ouais, 2020, les voitures autonomes, ça sera bon. Ouais. Puis après, c'est devenu 2025. Et maintenant, plus personne ne dit rien. Hein.
Bah, les investissements sont très lourds. Oui. Peut-être que la technologie informatique actuelle permet pas d'accéder à un coût normal et à une vitesse de calcul et une dépense d'énergie aussi considérable pour ça. On va voir avec les ordinateurs quantiques, peut-être que on aura un changement. Mais lorsqu'on voit les problèmes de tout ce qui est connexe au moteur, quand tout ce qui tire sur la batterie d'une voiture électrique, bon, si on a tout un système hyper sophistiqué pour être au niveau 5, oui, ça va tirer sur la batterie aussi. Hein.
Alors, question un peu façon les inconnus de Novichok. On ne censure pas les questions sur le podcast d'Histoire d'Auto. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais lobbyiste? Le bon et le mauvais chasseur.
C'est tout à fait ça. Voilà, donc je vais rouvrir une bière et répondre. Je pense que le mauvais lobbyiste, c'est un peu un type qui cherche à démontrer les choses. Hein, qui va être un peu harceleur, genre avocat, qui défend une cause perdue, expliquant que son client a trouvé un couteau par terre, il a glissé sur la personne et il a touché au cœur, mais essayer de convaincre avec ça. Et un bon lobbyiste, c'est quelqu'un qui va essayer d'expliquer. En fait, peut-être qu'on a un point à défendre, mais ce qu'il faut surtout faire comprendre en face, c'est pourquoi on arrive à cela. Hein, et c'est quelque chose qui marche dans le lobby. Je crois aussi dans votre profession qui marche vis-à-vis des médias. C'est-à-dire qu'on peut expliquer pourquoi on arrive à tel type de voiture. Où souvent, on nous a dit « Ah, c'est horrible, cette porte, elle est horrible, elle est mal dessinée et tout. » Si on est bon, on va expliquer pourquoi elle a été dessinée comme ça, parce que c'était peut-être plus rentable, parce que c'était peut-être plus sécurisant. Voilà. Et en lobby, c'est la même chose. Hein, ce qui est important, c'est pas de sortir d'une réunion en disant « Ah, les mecs, on leur a bien balancé, hein, et là, ils ont compris, ils font dans leur froc, là, ils ont compris que ça allait supprimer 15 000 emplois ou autre. » Non, ce qui est bien, c'est quand eux vont être dans une autre réunion et vont être capables de reprendre la logique qu'on leur a passée, qu'on soit là.
Ils auront saisi la complexité.
Voilà. Et surtout, et déjà, je crois que vous le dites très bien, c'est un lobbyiste, c'est quelqu'un capable de faire comprendre qu'il y a de la complexité dans certaines actions. Après, le lobbyiste, il n'a pas à dicter la politique d'un État. Il va seulement lui dire, voilà, si vous développez ça, développez des voitures à trois roues, effectivement, ça va coûter moins cher, ça va réduire le prix, mais il y a quelques risques. Voilà, et c'est à nous de faire comprendre pourquoi il peut y avoir des risques avec des voitures à trois roues.
Les amateurs de Reliant Robin seront réjouis et auront des images qui défileront dans leurs yeux, là. Question de Virginie. C'est, je suis content, je suis écouté par des filles, ça c'est cool. Salut Virginie, d'ailleurs. Quels sont tes grands rêves pour la filière automobile ?
Ah bah les grands rêves, c'est qu'on commence enfin à comprendre que l'automobile structure la mobilité, que les politiques arrêtent de délirer complètement. L'automobile, ça structure la mobilité d'un pays. Alors nous, on le voit, on a la chance de le voir tous les jours dans nos pays développés. Imaginez que nos amis africains, qui, eux, galèrent avec des moyens horribles de mobilité, eux le savent. Eux savent que c'est l'accès à une autre vie, c'est d'avoir une voiture. Hein. Et je crois que c'est ce qui est absolument délirant actuellement, c'est de voir qu'on a des gens qui pensent que l'automobile peut être remplacée. Alors oui, ça peut peut-être être remplacé, mais enfin à des coûts qui sont complètement délirants. Et lorsqu'on voit les autres moyens de mobilité, alors soit ils ont des spécificités comme l'aéronautique, bon, se déplacer d'un point à un autre, il faut quand même un endroit où on peut atterrir, bon, c'est pas évident. Les taxis volants, ça commence un petit peu à sentir le poulet grillé, d'après ce que je comprends. Hein. J'aimerais bien voir la DGAC autoriser des tas de taxis qui volent au-dessus de nous.
Se posent sur l'Arc de Triomphe.
Voilà, mes vieilles expériences vis-à-vis de l'administration aérienne me laissent penser que ça peut être douteux. Donc, on a ça, c'est en aéronautique. Les trains, c'est pas faire injure à la SNCF de savoir quand même que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait un président de la République bien connu. Et puis, on voit très bien que l'efficacité de certains transports urbains est catastrophique. Hein. On voit que dans les villes moyennes, on a des lignes de bus internes, alors qui coûtent trop cher. Donc, soit on diminue la fréquence, soit on diminue les distances. Dans les deux cas, les gens ne sont pas contents. Mmh. Hein. Alors, il y a sûrement des solutions qui peuvent être complémentaires à la voiture. Les bus relais, hein, c'est quelque chose qui est proposé par des gens comme Yves Crozet, qui réfléchit à ce sujet, qui est un grand universitaire. Tout ça, c'est complémentaire à la voiture. Hein. Le vélo, l'opposition vélo-bagnole, je trouve ça d'une bêtise insensée, parce que il suffit de voir combien de personnes ont acheté des portes-vélos chez Noroto pour comprendre que c'est les automobilistes qui utilisent le plus le vélo. Hein. Donc ça, c'est complètement délirant. Donc on a une structuration de nos paysages, notre vie quotidienne par l'automobile, et il faut que les politiques à haut niveau le comprennent. Parce que lorsqu'on entrave cette mobilité, regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, ça a des conséquences terribles. L'augmentation du prix des carburants actuellement a des conséquences terribles. Hein, et on est dans des départements où l'utilisation de la voiture est critique pour la vie. Vous savez, on avait eu une étude de 3A à la demande d'ailleurs de la métropole d'Île-de-France qui avait demandé il y a combien de voitures critère 4 et au-dessous en Seine-Saint-Denis. On est arrivé à 45%.
C'est énorme.
Alors, ce ne sont pas des collectionneurs de Youngtimers. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns
qui nous écouteront. Mais ce n'est pas la majorité.
Mais voilà, les 15 qui nous écoutent et qui habitent là-bas, ce n'est pas eux qui représentent les 45% d'utilisateurs de voitures de plus de 15 ans.
Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire carrière dans l'auto ?
D'abord, il a raison. Parce que c'est quelque chose où...
C'est bien de le préciser parce que c'est pas évident.
Mais c'est pas évident, on leur dit tellement... D'abord, on a le problème de base. On dit aux gens, ouais, si tu travailles pas à l'école, t'iras à l'usine. Alors déjà, ça casse... première cassure. Après ça, la bagnole, c'est complètement dépassé, ça pollue, ça tue, faut aller faire réparer des vélos. Ok, enfin, entre développer les logiciels de voitures avec des ADAS, les nouvelles façons de les construire et réparer des vélos, il y a quand même une différence. Hein. Mm-hmm. Non, je pense que c'est très intéressant pour des jeunes parce que dans quasiment dans toutes les professions, il y a des changements. Hein, alors on voit très bien ce qui se passe dans le technique parce que c'est visible, mais lorsqu'on va de l'autre côté dans le commerce, la réparation, mais là aussi c'est phénoménal. Le vieux monde a disparu. Hein. On a encore les caricatures des vendeurs avec costume à carreaux et le bic dans la poche. c'est fini, ça. Hein. C'est des gens qui savent comprendre comment est le client, qui ont vraiment un savoir-faire à apprendre. Et la réparation, avec réparer toutes ces nouvelles techniques, va être aussi un sacré enjeu. Donc, dans l'automobile, il y a un boulevard futur considérable pour des jeunes.
Une dernière question, enfin après il y aura les 4 questions rituelles, mais une dernière question avant de passer aux 4 questions rituelles. Tu es aussi un passionné de jeux vidéo.
Oui.
Quel est ton jeu de bagnole préféré?
Eh ben moi, alors je risque de surprendre, parce que c'est un jeu qui est violent, ça tire aussi. C'était Interstate 76. Interstate 76, qui était un jeu, alors j'ai oublié qui l'avait fait, c'est une boîte qui a été rachetée d'ailleurs par Activision, je pense, c'était des voitures des années 70, donc on jouait des personnages, donc on avait un black avec une touffe sur la tête, je jouais ça, et il y avait des musiques années 70, pleines de plouip, de couip, de trucs, et c'était absolument fabuleux. Donc ça reste mon jeu de bagnole préféré. Après, bien sûr, j'irais que c'était, allez, c'est l'ancêtre du GTA, du GTA que j'adore, voilà. Bon, puis après ça, bon, j'ai quand même évolué, et là, actuellement, je suis au niveau 13 sur Starfield.
Ah, je crois que je suis au niveau 16.
Voilà, donc on voit qu'on aime ça, voilà. Et là, c'est un bouleversement visuel et...
Ouais, c'est pas mal. Hein.
L'intelligence qui se met là-dedans est fabuleux, quoi.
Et tu attends avec impatience le prochain Forza Motorsport ?
Oui, ah oui. Alors je les achète, je les finis pas, mais ça fait rien, j'achète quand même. Ça devient un peu comme les Call of Duty, voilà.
C'est ça. Bon alors, on en arrive aux 4 questions rituelles. Alors la première, est-ce que tu fais des recherches sur les sites d'annonces auto ? Et si oui, quelle est ta dernière recherche ?
Eh bien, ma dernière recherche, c'était Tesla. C'est très amusant. Alors voilà, ouais, Tesla, parce que je regardais, parce que je n'étais pas sûr par rapport au prix, donc j'ai cherché sur un site auto. Et avant ça, non, j'ai... Bon là, c'est un peu pour le boulot, pour le fun, je cherchais le prix d'une Opel Record des années 70.
Ah ouais, on est quand même sur du truc de connaisseur, là.
Voilà, mais c'est parce que je suis au club Opel Classique de France, et qu'il y a une superbe Record que j'aimerais bien mettre la main dessus.
Quel est ton meilleur souvenir de road trip ?
Ben, mon meilleur souvenir de road trip, c'est marrant parce que j'en ai eu beaucoup aux États-Unis, je suis un fan des États-Unis, mais je me souviens très bien qu'un jour je me suis retrouvé en Arizona et je roulais sur une route en écoutant Everybody Wants to Save the World et c'était exactement comme dans le clip. J'étais dans la bagnole et j'écoutais la musique et je me disais, punaise, je suis dans le clip de vidéo. Donc ça, pour moi, ça reste un truc fabuleux. Et,
un genre de flash, quoi.
Un genre de flash. Bon, c'est très lié aussi à j'adore conduire aux États-Unis, même pendant 7 heures d'affilée.
7 heures de ligne droite, pas de problème.
Fabuleux.
Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures. Ça doit quand même un peu correspondre à tes besoins et à ta vie.
Ah ! Alors mes besoins sont délirants. je dirais une 403. Une 403 berline. Ouais. Hein, ça reste fascinant pour moi. Bien sûr, une Dodge.
C'est une Madeleine de Proust, la 403
Ouais, parce que je pense que ça correspond à cette ambiance des années 50. 50, 60, que j'aime bien. Hein, donc je vais les voir chez moi à l'embouteillage de la Palisse avec l'ami Thierry Dubois et c'est fascinant
qui est déjà passé dans le podcast,
il y a des trucs fabuleux. Donc ça oui, une des 4 voitures. Alors des voitures des années d'avant 45 et là j'aurais du mal à en citer deux tellement J'apprécie ces voitures, qu'elles soient, je dirais qu'elles soient françaises ou américaines. Je sais que la Buick, la Buick 39 décapotable d'un de mes meilleurs copains, j'aimerais bien lui voler, mais il saura que c'est moi. Parce que c'est la voiture qu'on voit dans Pearl Harbor, voilà, quand il est avec la fille. Mais même sans la fille, la voiture, elle est magnifique. Voilà. Et puis, à côté de ça, bah, les Citroën. Ah ouais. Une Citroën, une petite trèfle, c'est quand même pas mal.
Ah ouais, donc vraiment, la caisse carrée.
L'avant 45, j'aime beaucoup l'avant 45. Hein. Alors, il n'y a qu'un seul problème, c'est que moi, je chausse du 47 et j'ai les pieds assez larges. Et qu'à l'époque, toutes les pédales sont faites pour des gens qui chausent du 36, à peu près. Hein. Donc, c'est un peu casse-pied. Et puis, la quatrième, bah, ça reste mon rêve, et ça, je l'aurai. Je veux une Dodge Charger 69, voilà, comme il y a dans Sheriff, fais-moi peur. Voilà.
D'accord, et celle de Bullitt aussi, du coup.
Et voilà, et celle de Bullitt, ouais, en Mustang, un peu moins. Moi, j'aime un peu moins.
Ah bah, c'est les méchants.
Les méchants, mais tout à fait. Mais tu as raison, mais effectivement, ils ont.
C'est vraiment une voiture de bad guy en plus. Voilà, casting auto était parfait. Quoi.
Exactement, et moi, c'est plutôt cette idée, voilà, les cutéreux, là, comment on les appelle, les rednecks. voilà, les. Les cutters me la répareraient. Alors, je sais pas si je peindrais un drapeau confédéré dessus, parce que ça peut être très mal vu.
Ouais, ça commence à.
Les gens peuvent pas forcément.
Des
amateurs.
Ils sont pas dans le délire.
Cinéphiles, donc ça peut. Mais en orange, pourquoi pas. Et puis c'est marrant parce que j'en ai conduit une et c'est vrai que c'est. Bon, alors là, on parlait de DS. Là, dès qu'on commence à rouler, on commence à vomir tellement la suspension.
C'est tout le contraire de la DS en fait.
C'est essentiel.
La DS, il y avait un châssis mais pas de chevaux. Là, il y a plein de chevaux mais pas de châssis.
Plein de chevaux. Alors quand on est à 30 à l'heure, si on freine trop sec, mais, on passe à travers le guidon, hein. On passe à travers le pare-brise. Voilà.
Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ?
Alors là, c'est très dur.
Ouais.
Là, c'est très dur parce que je suis absolument infidèle en voiture. Et je crois que j'en ai changé quasiment tous les 5 ans à peu près,
ouais.
Mais même, peut-être même moins. Alors si je devais conduire une voiture, là, c'est une question, j'aurais du mal à répondre, parce que je dirais, allez, quoi, une... je dois dire que si le monde s'arrêtait et d'un seul coup, il n'y avait plus une seule voiture à conduire, ben, je resterais dans ma Sandero Stepway bicarburation que j'ai actuellement, qui me permet d'aller partout. D'abord de vivre à Paris sans avoir de garage et la laisser dehors,
ouais.
Pas se la faire voler ou dépouiller,
ouais.
Qui me permet d'emmener ma moto en Alsace avec une carriole, qui me permet de descendre où je veux. Donc pour moi, j'ai toujours été fasciné par Dacia, par la logique Dacia et de ses fondateurs. Et là, l'avant-dernière version c'est tout bon. Et en plus, actuellement, avec le réservoir en gaz, je suis assez content.
C'est clair.
En financier.
C'est clair. Enfin, t'es le premier, je crois, je suis sûr, tu es le premier, même si t'es une Dacia dans la voiture qu'on m'emmène jusqu'à la fin de sa vie.
Je crois que c'est parce que j'aime toujours la voiture.
La voiture populaire.
Voilà, la voiture que j'ai, je l'aime. Voilà, donc je l'aime. Alors, c'est vrai que, bon, bah, si j'avais une Type E actuellement, peut-être que je te dirais, j'aime bien la Type E.
Eh ben, écoute, François, je te remercie infiniment.
Eh ben, un grand merci.
On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter.
Toujours, voilà, parce que c'est très important pour moi, ça me permet de garder le lien souvent avec des journalistes que je vois pas souvent, que je vois dans les essais, et ça permet aussi d'expliquer des choses, j'essaye de passer des informations sur les pays étrangers, ce qui se passe en Inde, donc faire comprendre que l'automobile, ça se limite pas à la France, c'est quelque chose de mondial, c'est fascinant, et puis ça permet aussi d'être léger, et de faire des blagues, et je crois que l'humour sur les réseaux sociaux, ça manque énormément.
C'est clair, ça a même tendance à franchement disparaître.
Voilà, et plutôt que d'insulter les gens ou de les harceler, moi je préfère faire des blagues, et des fois quand je sens que je suis un petit peu trop gênant, je ne la fais pas, je me restreins. Voilà. C'est la diplomatie.
Des fois il faut savoir ne pas tweeter ou ne pas poster de statut.
Exactement.
Merci infiniment François.
Merci.
Et à une prochaine.
Et à une prochaine fois.
Salut.
Voilà, c'est la fin de ce 60e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode sur les plateformes de podcasting ou sur YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide à propulser ce podcast. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Si vous voulez me contacter, vous avez le mail histoiredauto@gmail.com. Et enfin, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode d'Histoire d'Auto. Merci, ciao et bonne route.